C'est un pays petit aux frontières internes, où les douaniers pullulent à chaque carrefour, où les vessies des ports passent pour des lanternes, pendant que le dimanche, à la pointe du jour, les convoyeurs attendent. C'est un pays mouillé, perclus de pavés tristes, où la pluie des lundis nous rend les jours amers. C'est un cafard secret auquel nul ne résiste, quand sous le ciel réduit au niveau de la mer, les convoyeurs attendent. C'est un pays joyeux, à la bouche gourmande, quand l'accordéon joue la rythmique du cœur, quand le ciel est flamand et la lune romande, loin des dancing disco ou sous les projecteurs, les convoyeurs attendent. C'est un pays marchand, ouvert les jours ouvrables, où l'Europe en chantier vient nicher ses squatters, dans les bureaux déserts de tours inhabitables, pendant qu'à chaque arrêt du tram 107 Water, les convoyeurs attendent. C'est un pays doublé de régions transitoires, je dirais même plus que ce sont deux pays, tombés par accident dans un trou de l'histoire, et où depuis ce temps, entre Bonn et Paris, les convoyeurs attendent. C'est un pays debout que je porte à mon ventre, creusé par les houilleux, bâti par les maçons. Ce pays, mes amis, il nous faudra le prendre, et c'est ce pays-là qu'au seuil de leur maison, les convoyeurs attendent. Car nous n'attendrons pas qu'il neige des oranges, ou que l'ogre d'argent daigne enfin nous quitter, pour vivre dans les rues cette passion étrange qu'on appelle parfois simplement liberté à force de l'attendre. C'est un pays petit aux frontières internes, où les contrebandiers partagent leur tabac, autour des braseros quand l'aurore lanterne, et qu'on oublie la nuit en rêvant que là-bas les voyageurs s'envolent. Les voyageurs s'envolent. Les voyageurs s'envolent. We'll be right back.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Campus Lille, les midis passés de quelques minutes. Vous venez d'entendre Claude Sémal, Le Pays Petit. Depuis 11h30, dans ce Pays Petit, Anéchin est un puits, entité de Templeuve, à 15 km de nos studios. Gérard Depardieu est en train de recevoir son cadeau de bienvenue, une boîte complète qui devrait révolutionner la fiscalité européenne, une boîte de la taxe des millionnaires. Bon, bonjour Gérard. De notre côté de la frontière, bon, bah, tout le monde est passif, ça ronronne. Pas grand-chose. Noël approche, vous aidez vos enfants à écrire leurs lettres au Père Noël. Vous avez de grandes bouffées de nostalgie, de celle du temps où on vous racontait l'histoire des trois petits cochons. Le plus bête avait une maison en paille avec un toit en paille. Le plus intelligent avait une maison en brique avec un toit en éternite. L'histoire ne dit pas qu'il est mort le premier à cause de l'éternite. On fabriquait l'éternite avec de l'amiante et il ne voulait pas le savoir. Pour nous en parler, autour des micros, à l'infini, bonjour.
Bonjour.
Romana Giuliano.
Bonjour.
Bonjour. Pierrot.
Salut, il faut préciser que nos deux invités sont des membres éminents enseignants à l'Université de Mons.
Ah, je vais les présenter. Hein. Donc, Pierrot est votre serviteur pour un magazine durant lequel on va parler d'économie politique, les bons calculs économiques, BCE en abrégé, celle de l'amiante et de l'entreprise qui l'a fabriquée. Donc, à l'infini, Romina Giuliano, vous enseignez tous deux à la faculté Varroquier d'économie et de gestion de l'Université de Mons.
Oui, c'est bien cela, oui.
Mons en Belgique, pas Mons en en France. Donc votre livre Éternite, un outil de destruction massive, est édité aux éditions Étain-Puis et il raconte comment le groupe Éternite et les familles propriétaires ont délibérément cultivé l'art de l'obscurantisme et de la négation afin de consolider leurs intérêts. D'ici à 2025, 100 000 décès sont prévus. En France, par exemple, Madame Martine Aubry, maire de Lille, a été inculpée récemment pour n'avoir rien fait à une certaine époque. Mais comment une entreprise dite familiale peut-elle en arriver là ?
Bon, tout d'abord, Éternite, c'est pas une entreprise en tant que telle à la base, c'est un brevet concernant un procédé de fabrication ciment qui a été mis au point en 1900 par Ludwig Hacek, un Autrichien, et puis ce brevet a été racheté par différentes familles. La famille Ensens en Belgique, la famille Cuvelier en France et la famille au nom imprononçable de Schmideni en Suisse au début du XXe siècle. Donc les rachats ont lieu entre 1905 et 1922. Donc en fait, à partir de ce moment-là, a été créée la galaxie Éternite, reprenant ces différentes familles. Il s'agit donc d'une entreprise qui a une vocation familiale avec un mythe fondateur qui est très prégnant, notamment au niveau de la famille belge, c'est-à-dire que le développement de l'entreprise s'est fait à partir de fonds qui proviennent de l'exploitation de notre ancienne colonie, donc du Congo belge, à la fin du 19e siècle. Donc ça, c'est une image très forte du mythe fondateur. Cette image, elle est omniprésente pour les entreprises familiales, que ce soit Éternite ou que ce soit d'autres entreprises. Alors dans les entreprises familiales, et c'est de nouveau manifeste au sein d'Éternite, il y a une volonté de transmission de l'entreprise de génération en génération. Alors en règle générale, l'entreprise familiale, elle est présente dans l'inconscient collectif populaire, au sens où tout le monde connaît les entreprises familiales et elles ont un certain aura, une certaine crédibilité qui dans certains cas peut être nocive, notamment dans le cas d'Éternite. Mais de manière assez remarquable, les entreprises familiales surperforment les autres types d'entreprises.
Voilà, combien est-il dans, quel pourcentage d'entreprises familiales dans le tissu économique
Alors on est au-dessus de 90%.
90%.
C'est une spécificité belge, ça ?
Non, c'est pas une spécificité belge, c'est une spécificité européenne. On a beaucoup d'entreprises familiales, mais généralement, on fait un amalgame entre l'entreprise familiale et la PME. Voilà. Mais dans certains cas, et notamment en France, vous avez de grosses entreprises familiales. Des entreprises qui sont même éponymes. Je pense à Bouygues, je pense à Peugeot.
Dassault.
À Dassault, bien évidemment.
Donc, Bolloré, Lagardère.
Il y en a des tonnes.
Et chez nous, juste à côté, le groupe Mulier, frère, au champ Décathlon.
Bien sûr, là, on a affaire à des entreprises familiales qui fonctionnent selon un mode opérationnel qui est assez remarquable. C'est-à-dire que généralement, les entreprises familiales préfèrent utiliser ce qu'on appelle leur marge brute d'autofinancement. Je ne vais pas être trop technique ici, mais en tout cas, les entreprises familiales veulent éviter de recourir au crédit. parce que ça impliquerait une certaine surveillance de la part d'autres parties prenantes qu'uniquement la famille.
Il y a une volonté de conserver le contrôle aussi.
Il y a une volonté de conserver le contrôle, donc elles ne vont pas naturellement sur le marché, elles ne se font pas coter en bourse de manière naturelle. Elles y vont dans certains cas dans un souci de notoriété et lorsque vraiment elles ont besoin de lever d'autres capitaux et qu'elles veulent se positionner à l'étranger, qu'elles veulent mener ce qu'on appelle une stratégie de diversification géographique. À ce moment-là, elles se font coter en bourse. Mais elles n'y vont pas naturellement.
Dans l'histoire rapide que vous nous avez brossée d'Eternit, là, il y a une référence au Congo. Donc il y a aussi une histoire coloniale derrière. Il y a un héritage colonial dans l'histoire d'Eternit.
En tout cas pour la famille belge, oui. Il y a les grandes familles belges, ce qu'on appelle dans le jargon sociologique les capitaines d'industrie, ont dans un premier temps se sont positionnés à la fin du 19e siècle au Congo pour profiter du développement de ce pays pour s'enrichir, voilà, je cherche.
Il n'y a pas d'autre mot.
Il n'y a pas d'autre mot. Pour s'enrichir. C'est valable pour la famille Mensens, c'est valable également.
Pour la famille royale aussi.
Oui.
Alors, le roi des Belges a quand même été. C'était son jardin, le Congo, on dit, pour rigoler.
Et toutes les familles qui se sont retrouvées au Congo, notamment la famille Lipens. Donc la famille Lipens, c'est la famille de.
Premier ministre.
Non. C'est la famille de ce cher Maurice Lipens qui a quand même provoqué. Ben pas que lui, mais qui a été à la base de la faillite du groupe Fortis qui maintenant appartient à BNP Paribas. Donc voilà un exemple de famille qui se retrouvait
au Congo.
Le monde est petit. Et notamment dans la famille Lipens, un des membres de la famille Lipens est le maire de Knok. Knok qui est
le Saint-Tropez belge.
Qui est le place to be.
Avec quelle étiquette?
À votre avis.
Bon, je connais indépendant,
pas
MR.
Je connais pas bien l'histoire belge.
Plutôt MR.
Ouais. MR, voilà.
Plutôt c'est... MR. Ouais. Plutôt UMP, mais version copée, quoi.
Voilà. Donc, on va reprendre
c'est
sur
clair,
les
clairs. Pour nous, comme ça, on comprend bien. Ouais.
Donc, c'est une. Alors, une. Comment dire. Une grande famille. Une famille, on se marie entre soi dans ce genre
oui.
de famille.
Oui, c'est une famille où on reste entre soi. De fait, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui a été mis en avant dans les études, notamment de Pierre Bourdieu. C'est tout ce qui concerne les stratégies matrimoniales et la consolidation du capital social et du capital matériel. Il y a beaucoup de mariages qui sont économiquement très réussis dans ces familles. Au fur et à mesure du développement de l'art généalogique, c'est assez manifeste, on ne se marie pas avec n'importe qui.
Protéger le patrimoine.
Pour protéger le patrimoine, donc le capital matériel, et au-delà de ça, au-delà du capital matériel, il y a le capital social également qu'on veut protéger. Et donc, au fur et à mesure du développement de l'arbre généalogique, on voit très bien les alliances qui se marquent avec des familles qui ont des petits deux et des familles qui sont anoblies. La Belgique est un des rares pays en Europe encore à anoblir chaque année. Donc chaque année, lors de la fête nationale, le 21 juillet, le roi anoblit certaines personnes. Alors, anoblit certaines personnes pour des raisons culturelles, par exemple, Annie Cordy, Gueluc.
C'est plus sympa, là, déjà.
Ils sont barons.
Comme très sympa, oui.
Donc ça a un côté relativement...
Folklorique,
voilà. Par contre, le roi anoblit également des...
Barons lapins.
Des personnes, voire des familles, parce que parfois ça peut se transmettre de génération en génération, le titre. Donc anoblit des familles industrielles qui ont permis le développement... de l'industrie en Belgique, de l'économie belge, et notamment la famille Mensens est une des rares familles industrielles qui a été anoblie sous le règne de Albert II.
Albert II.
Alors, encore une petite question pour l'ensemble du groupe Eternit, d'un point de vue dimension à la fois en capital et surtout en géographiquement où c'est implanté, et le nombre de personnes qui travaillent, ou qui travaillaient.
Le nombre de personnes...
À peu près, l'ordre de grandeur. C'est un groupe de 3000 personnes ou
non,
un groupe de 50 000 personnes?
On est plutôt vers 70 000.
70 000
personnes. Mais maintenant, le groupe est en deux parties. Donc il a été
simplifié.
Et donc ça, je peux vous l'expliquer par la suite, si vous voulez, dans l'historique.
Et géographiquement, je sais qu'ici dans le Nord, nous, il y avait une usine à Prouvy, qui était une usine Eternit à côté de Valenciennes, là-bas. Oui. On en trouve un peu partout encore des usines Eternit, en Italie, en France,
en Suisse, en Italie, en Espagne.
Donc c'est...
Oui, c'est multinational, c'est multinational. Qui n'a pas pignon sur rue parce que c'est un groupe qui n'est pas coté. Et donc, c'est très difficile d'avoir des renseignements sur cette entreprise. Quand on a mené cette étude...
C'est une enquête policière,
pour être clair. Oui, c'est
de l'investigation.
C'est du journalisme d'investigation. Hein. Ouais. C'est pas clair. Et alors, on a investigué surtout tout le processus de réseautage de cette famille. Donc, par exemple, dans les alliances matrimoniales que j'ai évoquées juste avant, on remarque qu'il y a un membre de la famille qui est associé à la famille Boel. À la famille Boel.
Donc il y a une stratégie d'occupation...
D'occupation du terrain capitalistique et du terrain économique, voilà. Voire du terrain culturel en Belgique.
Et ça sur un siècle.
Et ça sur un siècle. Donc je reviens sur la famille Boel. Il faut quand même savoir que l'union d'une personne de la famille Ensens avec la famille Boel, c'est pas du tout anodin. Pourquoi ? Parce que Delphine Boel, c'est quand même la fille non reconnue du roi Albert II.
Ah, d'accord.
D'accord.
Donc ça fait un premier lien avec la royauté. Et il y a aussi une alliance assez remarquable qui s'est opérée avec un membre de la famille Ensens, donc de la branche belge du groupe Eternit, avec la famille Huygens d'Acco. Et cette famille, elle est très connue à l'heure actuelle en Belgique. Pourquoi ? Parce que Mathilde Huygens d'Acco sera la future reine de Belgique. Donc on voit deux liens assez manifeste entre la famille Ensens, qui est la branche belge du groupe Eternit, et puis la famille royale. Et cette idée, elle est corroborée par le fait que récemment, la famille Ensens a été anoblie. Ce qui pose quand même question par rapport à tous les déboires sanitaires qu'ont rencontré
les conséquences
sanitaires de l'amiante. Et là, quelque part, on leur dit bien joué, les gars, vous avez fait prospérer le pays. Donc, ça c'est. C'est relativement paradoxal et c'est même très très inquiétant. C'est-à-dire qu'en Belgique, c'est un petit pays avec un certain nombre, relativement restreint de familles qui monopolisent le pouvoir économique.
Dont la famille royale. Indirectement.
Indirectement. Donc toutes ces familles sont reliées quelque part à la famille royale. Comme vous l'avez dit en début d'entretien, la présence de la famille royale au Congo était manifeste et toutes ces familles étaient également là au même moment. Et donc, quelque part, quel que soit ce que font ces familles, il y a une certaine forme d'absolution qui se marque en Belgique, parce que ce sont des intouchables.
Exactement.
Des intouchables, et ça, c'est vraiment très, très ennuyeux, surtout lorsque l'entreprise met au point un procédé qui provoque des déboires sanitaires très importants.
Vu qu'en France, on nous présente toujours avec un œil amusant et gentillet la famille royale de Belgique sous l'aspect un petit peu folklore. Oui, c'est une famille royale.
Ils sont rigolos.
Ils n'ont rien à dire, ils sont gentils. Ils sont aussi gentils. pour tenir la Belgique entre les Flamands et les Wallons. Mais en fait, ils ont un rôle économique fondamental.
Ils ont un rôle économique fondamental en fonction des liaisons qu'ils peuvent avoir.
Ils ne sont pas du tout des enfants de cœur, ni des petits roitelets.
Ils essayent de consolider leurs intérêts. C'est décrit superbement par Pierre Bourdieu dans La Noblesse d'État. Et le même schéma prévaut dans le cas de la branche belge du groupe Eternit, donc de la famille
Ensens. Dans le groupe Eternit, vous êtes bien placé pour savoir qu'ils sont effectivement très très impliqués, mais est-ce qu'ils sont impliqués dans d'autres de très gros groupes, la famille royale belge ?
Oui, ils sont très...
Dans la chirurgie, il n'en reste plus, vous direz.
Non, c'est pas grand-chose. Ils sont omniprésents. Mais via des mariages très réussis également, dans le groupe Solvay. Dans la chimie, oui. Donc dans Union Chimique Belge, avec la famille Janssen. Donc le groupe Solvay, c'est la famille Solvay. Union Chimique Belge, c'est la famille Janssen.
Les armements, non ?
Dans le temps, ils étaient actifs via une holding qui s'appelait à l'époque la Société Générale de Belgique, qui contrôlait la Fabrique Nationale. Et la Société Générale de Belgique, c'était un peu notre CDC version belge. Donc c'était le bras armé du pouvoir royal et pas du pouvoir politique au sein des entreprises.
Et dans les médias ?
Dans les médias, nous avons une chaîne publique, nous, la RTBF.
En audiovisuel.
En audiovisuel.
Et en écrit.
En écrit, ils sont pas présents. Non, non, c'est le groupe Ersan que.
C'est Ersan.
C'est tapis à un œil dessus en ce moment.
Ersan, on en parle.
Et comment dire, le groupe Rossel de la région, ouais. qui est en train de faire le ménage dans le journal Le Soir.
Ouais. Qui tient la Voix du Nord aussi.
Oui, bien sûr. Ouais. Pardon. Qui tient la Voix du Nord, Nord Éclair, et puis un tas d'autres. Ils n'ont pas racheté le Courrier Picard.
Donc une famille royale bien réaliste, bien pragmatique, et qui a réussi à placer ses billes et son pognon.
Je dirais pas qu'ils ont réussi à placer leur pognon, c'est que les loups ne se mangent pas entre eux. Et donc quelque part, on essaye de ne pas trop quitter. Critiquer les familles emblématiques de l'univers économique belge. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Et si vous voulez, on est passé d'une logique industrielle. C'est-à-dire qu'on avait des capitaines d'industrie, la famille Hensens, la famille Solvay, la famille Hansen. Donc on avait des capitaines d'industrie qui ont inventé des choses, qui se sont avérées par la suite nocives dans le cas d'Eternit, beaucoup moins nocives pour Solvay ou pour Union Chimique Belge dans le secteur
de la chimie
cette fois, ou de la pharmacie. Et puis, au fur et à mesure du temps, ces familles qui étaient dans l'exécutif, donc qui dirigeaient l'entreprise, ont une vision beaucoup plus capitalistique de l'entreprise. Et donc, se sont retirées des organes exécutifs pour se positionner au niveau des organes de surveillance, donc des conseils d'administration. Donc, ces familles, en tant que telles, elles ne sont plus vraiment, vraiment actives dans la gestion de l'entreprise. Elles sont dans les organes de surveillance. Donc, en fait... Elle contrôle si le dirigeant agit bien dans les intérêts, dans les intérêts des actionnaires, qui sont leurs intérêts,
bien sûr.
Ce sont des entreprises familiales.
De vrais capitalistes.
Donc on a eu un transfert du domaine exécutif vers le domaine de la gouvernance et de la surveillance. Et globalement, mais en termes de gestion, a priori, ils font plus rien grand chose dans ces entreprises. Maintenant, ils peuvent susciter des mesures stratégiques.
Ils contrôlent.
Ouais. Et ils suggèrent.
Alors, est-ce que ça reste limité géographiquement à la Belgique, ou bien c'est parce que maintenant on parle de mondialisation? Alors, est-ce qu'il y a aussi des réseaux au niveau européen ou au niveau mondial avec ces grandes familles belges et celles particulièrement d'Eternit?
Ben, si vous voulez, déjà l'entreprise d'Eternit en tant que telle, c'est une entreprise européenne puisque vous avez une branche belge.
Et le siège social, il est où?
Pardon?
Le siège social.
En Belgique.
Donc c'est une société, c'est une entreprise belge.
C'est une entreprise belge.
Pas d'impôts, enfin bref.
Passons les détails. On a trois familles, la famille Hemsens, donc en Belgique, la famille Cuvelier en France et la famille Schmideni en Suisse.
Qui
contrôle le groupe. Alors, historiquement parlant, le groupe, à un moment donné du temps... Ils se sont rendus compte que l'amiante, ça faisait pas très sexy. C'était pas très bankable.
Puis il y avait de plus en plus, se sont
depuis les années,
déclaré les incidents.
Depuis
incidents,
les années 60, les années 70, les études scientifiques démontrent qu'il y a une corrélation entre l'utilisation de l'amiante et des problèmes oncologiques. Et c'est prouvé dans des études scientifiques. Il y a pléthore d'études scientifiques.
Mais ça date des années 50, ça même.
Oui, des années 50. Mais la grosse étude, elle date des années 80.
La corrélation entre
L'étude qui démontre la corrélation claire et nette entre l'amiante et les problèmes oncologiques, ça date des années 80. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un lobbying qui ressemble très fort au lobbying qui a été opéré par l'industrie du tabac. Un lobbying de négation qui va se mettre en place. Mais à partir des années 90, l'entreprise, elle se rend compte que, à un moment donné du temps, l'utilisation de l'amiante va être interdite. Et donc, qu'est-ce qui va se produire en termes de
ce qui est le cas aujourd'hui?
Oui.
Ce qui est le cas.
Oui, c'est interdit.
Donc,
l'éternité du 97.
Dans toute l'Europe.
En Belgique, en France,
en France aussi.
Je veux dire, si l'amiante a été interdite, c'est grâce à vous. Hein. Enfin, c'est grâce à Jussieu. C'est malheureusement grâce à Jussieu, donc les problèmes
qui a été l'élément déclencheur.
Et si vous voulez, à partir
et,
de...
Et aussi le bâtiment de l'Union européenne qui a dû être désamianté. Là, ils ont été sensibilisés au sujet, les commissaires européens.
Manifestement. Mais si vous voulez, il y a eu, en termes de marketing et d'image pour l'entreprise, il y a eu un moment clé, c'est en 85, Eternit va racheter... la filiale française qui s'appelle Etex. Donc là, c'est la branche, en quelque sorte, c'est la branche belge qui rachète la branche française. Donc c'est la famille Hemsens qui rachète la branche détenue par la famille Cuvelier. Et à ce moment-là, dans la mesure où Eternit avait une connotation très négative, le nom Eternit avait une connotation très négative, ils vont changer le nom. Et donc, ils vont prendre la dénomination d'Etex. Donc, le groupe Eternit en tant que tel n'existe plus, s'appelle Etex. Et alors, autre changement remarquable qui va s'opérer en termes de revirement d'image, on va dire ça comme ça, c'est en 2003, l'entreprise va être divisée en deux parties. Donc, une partie Etex qui va concerner la construction lourde et qui va reprendre globalement la famille belge, et une partie dédiée aux activités plastiques et qui s'appelle Aliaxis et qui va être la branche française du groupe. Et depuis les années 80, en fait, la famille suisse s'est retirée. Donc la famille, je reviens plus sur le nom, Schmideni. S'est retirée du groupe. Donc pour le moment, le groupe, c'est globalement les deux familles, la famille belge et la famille française qui sont aux commandes. La famille française pour tout ce qui est activité plastique et la famille belge pour tout ce qui est activité de construction.
Est-ce qu'ils ont des intérêts? Parce que l'amiante, c'est une matière première qui, je crois, de mémoire, vient du Canada.
Oui.
Et c'est essentiellement les... Est-ce qu'il y a des intérêts dans là directement à la source? Ou bien ils prennent le produit après? Ils ne s'occupent uniquement du produit
Ils prennent le produit après. Donc ils n'ont pas utilisé
une stratégie. Ils prenaient, on peut dire, parce que maintenant, ils ne peuvent plus.
Ils ne peuvent plus.
Voilà, okay. Oui, en sachant qu'au Canada, je rappelle que le gouvernement précédent, qui a perdu les élections, subventionnait ou voulait subventionner la réouverture la modernisation de la mine d'amiante afin de pouvoir exporter des produits d'amiante vers l'Inde.
C'est... Et sur le continent africain?
Ils y sont... Et il y a toujours de l'extraction d'amande sur le continent africain,
notamment et aussi
d'Afrique du Sud.
Et du traitement.
Et du traitement
donc
également.
Je crois que justement là-bas, c'est pas interdit, donc on continue à produire. L'équivalent de l'Eternit ou ses avatars. Quoi.
Voilà, peut-être une petite pause musicale, puis ça fait déjà 25 minutes. Eh bien, Claude Semal, le cimetière des Belges, en sachant qu'il n'y a pas que les Belges qui étaient concernés par ce problème.
Vous écoutez Radio Campus Lille, 106,6 MHz, ou sur le web www.campuslille.com. Donc c'est l'émission Les bons calculs économiques. Nous recevons aujourd'hui à l'infini Romania Giuliano, excusez-moi, donc concernant leur livre Eternit, un outil de destruction massive, on peut se le procurer auprès des éditions. Est un puits.
Excellente maison d'édition.
Excellente maison d'édition.
On a compris que dans cette première partie, là, que Eternit, il y avait une histoire, il y avait une famille, c'était un gros truc.
Même des familles, oui.
On a été amené à parler de l'Eternit plus précisément dans le cadre du dossier amiante, on va dire, parce qu'il y a eu des conséquences sanitaires graves. Mmh. Il y a quand même un truc étonnant, c'est que déjà depuis très longtemps, les scientifiques sérieux dans le monde médical et sanitaire savaient que l'amiante posait des problèmes. Concrètement, ça a été affirmé et confirmé dans les années 70-80, et il a encore fallu attendre presque 30 ans pour vraiment cesser définitivement et dire « halte là, on touche plus à cette merde ». Comment ça se fait qu'il y a pu avoir ce flou ?
Enfin bon, la nocivité de l'amiante, sur Wikipédia, hein, donc 1906, Denis Haribaud, inspecteur du travail, signale pour la première fois en France la forte mortalité des ouvriers. Ouais. Je vous laisse la parole.
Ouais, depuis 1906.
Depuis le début.
On le sait, depuis le début. Même avant l'achat du brevet par la famille française qui date de 1922. Et donc, en fait, nous, la question qu'on s'est posée au travers de ce bouquin avec Romina, c'est de se poser la question pourquoi il a fallu autant de temps pour qu'on en arrive à l'interdiction qui date de 1997 en Belgique. Et selon nous, il y a trois raisons qui expliquent le maintien de l'utilisation de l'amiante pour fabriquer du ciment. La première raison, c'est une raison liée au chantage à l'emploi.
Comme d'habitude.
Quel est le meilleur contre-pouvoir dans les entreprises ? A priori, ce sont les organisations syndicales. Mais le chantage à l'emploi, il s'est passé comment ? Le patronat a dit, écoutez, nous, si on abandonne l'amiante pour fabriquer du ciment, on ferme les sites de production. Et donc, quelque part, dans une logique court-termiste, qu'on fait les membres du personnel,
ils défendent leur boulot.
Ils ont défendu leur gagne-pain. Et donc, ils n'ont pas agi. Donc,
c'est une réaction.
Et ce qui est étonnant, c'est, si je peux me permettre, c'est en 98, donc une année après l'arrêt de l'utilisation de l'amiante. Alors, c'est tombé du ciel, c'est un miracle, c'est une impulsion divine. Ils ont trouvé un autre processus
pour remplacer
l'amiante. Un an après. Alors ça, c'est merveilleux. Donc pendant des années, on a eu toujours le même discours avec le même baratin patronal qui était de dire « Si on n'utilise pas l'amiante, versons une larme, nous allons devoir fermer les sites de production. » Et puis pour le coup, l'année qui suit l'arrêt d'utilisation de l'amiante, on s'aperçoit qu'il y a une méthode qui fonctionne tout aussi bien. Bon, ça, c'est quand même assez pénible.
Ou à coût équivalent.
À coût équivalent, oui. Bien
sûr, parce qu'en général, c'est aussi un argument, la compétitivité.
Non, à coût équivalent. À coût équivalent. Alors, la deuxième raison, c'est l'omniprésence dans les organes de surveillance de ces entreprises de personnes apparentées aux familles fondatrices de l'entreprise. Donc, la famille avec du lobbying manifeste, et notamment du lobbying aussi qui va se faire par l'entremise du secteur bancaire flamand. Donc, avec deux groupes, la Banque de Grove et le groupe Ackermans Van Arren. Donc, en fait, Eternit, du moins pour la branche belge, c'est une entreprise belgo-flamande. Et dans la structure de capital, on voit manifestement qu'il y a deux banques centrales flamandes, deux banques d'investissement qui sont très connues, qui sont omniprésentes dans le capital et qui sont également présentes dans les organes de surveillance. Alors, comme je l'ai dit préalablement, on a toutes ces manipulations génétiques ou ces stratégies matrimoniales qui ont fait que les individus des familles se sont rapprochés au fur et à mesure des générations du sommet de la sphère économique belge. Et donc, c'était quelque part devenu des intouchables. Alors, le troisième point, c'est en France, vous aviez mis, suite aux incidents de Jussieu, en place ce qu'on a appelé le comité permanent amiante. Le comité permanent amiante a été mis en place en 75, a été dissous en 95. Avec les organisations syndicales, mais... Nous, on a analysé un peu la composition de ce comité permanent, on s'est rendu compte qu'en fait, il était gangréné par le patronat. ou bien c'était des gens qui étaient à la bonne du patronat qui étaient là-dedans. Donc pendant 20 ans, il ne s'est rien passé. Ce comité n'a rien fait pendant 20 ans. Alors que tous les gouvernements français attendaient des conclusions qui auraient dû venir de ce comité, et il n'y avait rien qui se faisait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un premier phénomène de médiatisation lié aux incidents de Jussieu en 75, et puis on a eu un deuxième phénomène de médiatisation qui a eu lieu en 95, toujours sur le campus de Jussieu. Et en fait, s'il y a eu abandon de l'utilisation de l'amende, sur un plan sociologique, c'est parce qu'il y a eu un transfert de problèmes qui étaient liés à la sphère uniquement professionnelle,
industrielle,
vers la sphère publique, avec, au passage, une forte médiatisation.
On découvre brutalement que de l'amiante, il y en a partout.
Oui, on découvre brutalement que de l'amiante, il y en a partout.
Dans les collèges, dans les lycées, dans les hôpitaux.
Dans les maisons.
Dans les freins des voitures, dans les bateaux.
Bien sûr.
Il y en a partout. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une médiatisation. C'est grâce aux médias qu'on s'en est sorti de l'amiante. S'il n'y avait pas eu les médias, on s'en serait pas sorti. Ça restait confiné dans la sphère professionnelle. On n'en parlait pas.
Grâce aux médias, et puis évidemment ceux qui en ont été victimes, mais qui ont réussi à mettre
en œuvre. Et les associations de défense, donc l'ABEVA en Belgique et l'ANDEVA en France,
Ouais.
qui ont fait du lobbying, qui a été répercuté au niveau des médias.
Mais encore avant de continuer, mais comment ça se fait que vous deux, vous êtes amenés à vous intéresser à ce problème, à écrire ce bouquin? Vous êtes concernés personnellement ou vous avez une raison privé de s'intéresser à ça?
J'avais toujours eu envie de les emmerder, ceux-là. Mon père est décédé d'un cancer d'un mésothéliome lié, donc il avait travaillé dans une filiale en Belgique qui s'appelait Coverit, qui a fermé en 87, et il y avait un rapport qui avait été commandé par l'entreprise pour savoir quelles étaient les conséquences liées à l'utilisation de l'amiante. Et juste avant que ce rapport ne sorte au niveau de la filiale, on a fermé la filiale. Et ce rapport n'a jamais été rendu public. Et donc, mon père est décédé d'un cancer du mésothéliome en 2005. Et a travaillé donc au sein de la galaxie Eternit pendant plus de 20 ans.
Reconnu comme maladie professionnelle.
Reconnu comme maladie professionnelle. Et donc, j'ai décidé de les emmerder. Et quelque part, ce livre, je l'ai d'ailleurs dédié à mon père, c'est à sa mémoire.
C'était dans les années ?
Il est décédé en 2005.
Donc c'est
assez récent. Et l'entreprise, donc la filiale d'Eternit, Coverit à Arménie, a été fermée en 87. Donc ça s'est déclaré 20 ans après.
Ça veut dire que c'est une bombe à retardement.
C'est une bombe à retardement. Et ça explique aussi pourquoi il n'y avait pas trop de pression de la part des travailleurs. C'est-à-dire que la pathologie n'apparaissait, le temps de latence était très long, pouvait être 20, 10, 20...
Il a fallu 30. Que les premiers cas arrivent pour
les
gens concernés les premiers, ouais. Même se disent, ouais.
Et comme les premiers concernés étaient des travailleurs, quelque part, il n'y avait pas de phénomène de médiatisation et ça restait confiné dans le domaine de l'entreprise.
C'est un peu la silicose du mineur.
Exactement, exactement. Et alors, il y avait des effets double-double, c'est-à-dire qu'il y avait donc une augmentation d'avoir des problèmes pulmonaires, des problèmes oncologiques pulmonaires, et il y avait donc une multiplication importante. Et par exemple, si vous fumiez en plus, c'était encore multiplié par 3, quoi. Et on était dans une époque où beaucoup de gens fumaient. Donc c'est une des premières raisons pour lesquelles cet ouvrage a été réalisé. La deuxième raison, c'est Romina qui va maintenant intervenir.
Oui, donc en fait, étant assistante à l'université de Mons, je travaillais donc dans le service d'Alain. Et donc, on s'intéressait plus précisément aux aspects liés à la responsabilité sociale des entreprises. Et on s'est demandé, tiens, Eternit, finalement, est-ce qu'elle met en place des processus de responsabilité sociale avec tout ce qui s'est passé par le passé? Et donc, avec surprise, on s'est donc rendu compte qu'elle avait mis en place tout un processus de certification en Belgique.
Pour se protéger.
Justement, oui, on se demande pourquoi est-ce qu'elle a mis en place ce genre de processus. D'autant plus que ce n'est pas elle qui se certifie. Donc elle est certifiée par un organisme extérieur, ce qui est encore beaucoup plus... oui, voilà.
Elle se conforme à certaines exigences, en fait.
Et ces organismes sont effectivement des organismes indépendants?
Oui, ce sont des organismes indépendants qui certifient donc que l'entreprise répond bien aux différentes normes imposées par le référentiel.
Et ça a été fait à quelle époque, ça?
Alors, ils ont commencé leur processus de certification en 1993.
Il a quand même fallu encore attendre, là.
Et donc, Eternit a utilisé de l'amiante jusqu'en 1997. Et donc, il faut savoir qu'elle a commencé donc son processus en 1993 et a été certifiée ISO 9001. Donc...
Voilà, donc les certifications ont été faites, ça correspond aux certifications. On peut se demander à quoi servent les certifications, puisqu'elles n'ont pas...
Tout à fait. Donc ça certifie en fait la qualité des produits mis en vente.
Mais pas les conséquences.
Mais pas les conséquences, voilà. Non. Et encore plus surprenant, c'est qu'elle a été certifiée en 1997 par l'ISO 14001, qui est un référentiel lié à l'environnement. Et donc, il faut savoir que l'amiante est un produit qui est extrêmement nocif et polluant.
Et en 97, on le savait déjà.
Voilà, donc c'est d'autant plus surprenant.
Ça remet en cause la validité de ces organisations, de ces organismes de validation ou de certification.
Ça reste des organismes indépendants et qui sont payés de toute façon par l'entreprise qui est demandeuse. Donc
ils ne sont pas indépendants.
Bah, oui,
mais bon, attention, une certification, c'est un référentiel. On n'est pas obligé de choisir un référentiel qui est, qui soit avantageux pour le public.
Ça laisse planer un peu.
C'est bien ça.
C'est sérieux sur la validité de ces organisations, de ces organismes certificateurs.
Alors, on ne remet pas du tout en doute le travail des certificateurs, loin
de là. Ils ont appliqué leur référentiel.
Voilà,
ça correspondait.
Par contre... Il aurait peut-être fallu aller un peu plus loin au niveau de la recherche et de là à certifier une entreprise qui a connu pas mal de déboires au niveau de la santé des travailleurs. C'est quand même fort. D'autant plus qu'en 2004, Eternit a été élue comme étant l'entreprise la plus respectueuse de ses travailleurs.
Ça, c'est d'un cynisme...
Attention, travailleurs et n'oublions pas les consommateurs ou les gens.
Les
clients. Vous êtes.
C'est-à-dire nous.
Il y a beaucoup de gens qui avaient de l'éternit, de l'amiante chez eux. Ils l'ont bouffé, ils l'ont respiré.
Il faut rappeler entre parenthèses qu'Eternit est très connu avec l'ancien ciment amianté. Là, c'est l'étal ondulé qu'on a connu dans les générations.
C'est ce qu'on appelait les éternites.
Les éternites.
Les éternites. Et ma mère me dit, quand j'étais gosse, en culotte courte, me disait déjà attention, touche pas à ça, hein. C'est dangereux. Et d'ailleurs, au niveau, j'en ai une bonne, là, c'est toi qui as le papier. Pierrot, concernant l'éthique des entreprises, donc il y a ce fameux Suisse. Schmideni, Monsieur Schmideni, il s'est pris 16 ans de prison, c'est ça, hein. Bon, il a fait appel à propos de l'amiante, et donc un article du 13 février, donc Stéphane Schmideni, d'entrepreneur à philanthrope. Je veux dire,
la famille suisse, à un moment donné du temps, ils se sont rendus compte que tout ce qui était lié à l'amiante, c'était relativement problématique. Voilà. Et donc, ils se sont positionnés, ce cher Stéphane Schmideni s'est positionné sur tout ce qui est RSE. Donc, ça a l'air d'être le champ de la responsabilité sociétale des entreprises. RSE, donc, ça a l'air d'être une personne de renom dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. Évidemment, c'est à l'heure actuelle, en fonction des tendances sociologiques, c'est plus vendeur d'être estampillé responsable sociétalement pour les entreprises que d'être estampillé amiante. Ouais. Donc c'est un problème d'image. Et donc lui, il a fait une belle arabesque latérale et un beau revirement en se présentant comme la personne centrale dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors qu'à la base, sa famille, c'était quand même des...
En fait, le criminel est devenu victime.
Oui, c'est en quelque sorte.
L'assassin est devenu...
Oui. Non, le criminel a été légèrement condamné.
Mais alors, si vous regardez dans sa biographie, vous allez trouver un ensemble de recueils, d'ouvrages concernant la responsabilité des entreprises. Je vous conseille de ne pas les acheter, mais plutôt d'acheter Eternit, un outil de destruction massive.
L'édition est un puits, donc un entrepreneur, un citoyen, un père, un randonneur, un collectionneur d'art et philanthrope sur son site web.
Un bravo, quoi.
Comme philanthrope, une citation de ce monsieur, « Mon désir était d'inciter à un changement social positif, en particulier d'aider les nécessiteux, de sauvegarder les opportunités, enfin, parenthèse, je ne sais pas ce qu'il y avait, pour les générations futures. »
Voilà.
Oui, donc là, une certification qui n'empêche pas de commercialiser des produits.
On avait interrompu Romia là, sur ses motivations. On était arrivé donc au fait que vous aviez trouvé qu'effectivement Eternit était, avait commencé le boulot tardivement, mais pour essayer justement de se protéger avec derrière des certifications et des organisations.
Tout à fait. Pour se redorer en fait son image de marque, tout à fait, auprès de toutes les parties prenantes. Aussi bien des travailleurs que...
Et à partir de là, vous vous dites, mais bon sang.
Mais oui, voilà, à partir de là, on se dit, y a peut-être un petit problème par rapport...
Déontologique
Voilà, exactement. D'autant plus qu'aujourd'hui, Eternit, sur son site internet, elle se montre comme étant une entreprise totalement,
totalement
responsable. Ouais. Elle met d'ailleurs en place divers plans d'activité qu'il a... Enfin, c'est tout à son honneur. Hein. Elle met par exemple en place un centre sportif, un club de football pour ses travailleurs. Elle participe...
Un peu paternaliste.
Oui, c'est ça.
Non, mais ça, c'est le propre des entreprises familiales, ça. C'est l'image du fondateur avec une longue barbe blanche.
Monsieur Michelin,
oui,
Monsieur Peugeot. Enfin,
c'est protecteur.
Il n'y a pas de stade Mullier dans la région.
Ah, c'est déjà la génération d'après.
Voilà.
C'était les parents, les patrons textiles qui faisaient aussi des églises, des terrains de sport, des crèches.
Oui, et les riverains également qui se trouvent là à côté de l'entreprise. À Kapellen-op-den-Bos, peuvent aussi aller visiter l'entreprise quand bon leur semble. Il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées tout le temps, ou tout au long de l'année.
Même à l'époque où c'était la Miante.
Ah non, maintenant, aujourd'hui, oui. Donc, ils mettent même en place un journal quotidien disponible à tous les riverains.
Donc, ils se sont emparés de la com à max pour...
Et c'est symptomatique de l'orientation de l'entreprise. Romina a été conduire en entretien là-bas. Donc elle s'est présentée comme une étudiante qui a réalisé un travail, donc pas comme une doctorante. Et à tout le moins, pas une doctorante qui m'était associée, parce qu'on voit très bien ma coloration. Et donc elle a eu un entretien. Ça a déjà été très compliqué pour avoir un entretien. Mais quand Romina a essayé de discuter du passé avec cette personne, c'était blackout.
Ouais, on imagine.
On coupe les micros. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sent qui pèse chez eux. Et ils ont beau essayer de redorer leur blason, c'est très compliqué pour eux.
Surtout que maintenant, avec la bombe à retardement, c'est que ça commence à tomber sérieusement. Les morts, il faut le dire. Hein. Ce sont les morts de l'amiante. Hein.
Les morts de l'amiante, oui.
Oui, l'amiante, je rappelle, il a fallu reconstruire pas mal de choses en Europe... Et donc, on a mis un peu partout.
Il faut désamianter déjà.
Voilà, il faut désamianter.
Désamianter, ça c'est un coût énorme. Et bon, qui va faire ce désamiantage? C'est pas évident. Donc tout cela pose problème. Tout cela pose problème, c'est manifeste.
Il faudra aussi, démonter les centrales nucléaires un jour.
les responsables dans l'histoire récente, il y a quand même des conséquences juridiques. Maintenant, il y en a qui sont pas... on a évoqué le Suisse, là. On a évoqué, nous, en France, Martine Aubry, là, le futur procès est en cours. Il y a un dossier qui est ouvert contre les...
C'est très difficile, c'est très long, de nouveau, du fait des connivences de ces familles avec le pouvoir politique, judiciaire, et de leur positionnement. Alors, en tout cas, il y a une famille qui se bat en Belgique, la famille Jonker, un de ses représentants est président de l'association Défense des victimes de l'amiante, donc la BEVA en Belgique. Et donc ce jugement leur a été favorable. Ça peut faire jurisprudence. Ça peut faire jurisprudence, mais ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Et puis le système est très pervers. C'est-à-dire que moyennant une indemnisation mensuelle, donc quelque part la firme, l'entreprise se disculpe.
En payant,
mais... vous avez l'obligation de ne pas porter plainte contre eux.
Ah d'accord.
Ouais. Mais c'est toujours.
Donc il y a une indemnisation, et en échange, mais par contre, de l'autre côté, on ne peut pas...
C'est l'équivalent du plaidé coupable.
Oui, c'est ça. On ne peut pas attaquer cette entreprise en justice.
Il y a d'autres entreprises qui sont concernées. Je crois qu'en France, il y a le groupe Alstom, parce qu'il y a eu, entre autres, ici dans la région, il y a eu une maison ici à côté de Rouen qui s'appelait Alstom Industrie, qui s'appelait avant, c'était Industrie, qui faisait de la petite
métallurgie. Ah oui, c'était Industrie, à l'Issy-la-Noix, d'accord.
Et il y a une association très...
Très active.
Très active, parce que là, c'est pareil, ça commence à... C'est une entreprise qui a été fermée il y a maintenant 15 ans. Mm-hmm. Et évidemment, les conséquences arrivent maintenant.
Maintenant, oui.
Et au tribunal, c'est du quotidien, quoi, les actions dans les tribunaux.
Mais qu'est-ce que ça représente pour le groupe Alstom? Pas grand-chose. Ouais. C'est toujours bien la famille Bouygues pour payer quelque part. Donc,
voilà, la famille donc Eternit en Belgique, sa fortune, d'après mes souvenirs, elle est estimée à 1,5 milliard d'euros, c'est ça?
Oui, c'est de cet ordre-là.
C'est de cet ordre-là.
Mais la famille est large, hein.
Oui, la famille est large.
Ils ont beaucoup d'enfants et puis
Et ils étaient trois familles à vivre sur l'amiante.
Ils étaient trois familles, mais donc, bon, allez, il y avait la famille belge, la famille française et la famille.
Alors je famille Cuvelier, la famille française.
La famille Cuvelier-Pérard, oui. Je vais vous donner une petite. Ça me fait beaucoup rire ça. La famille Cuvelier-Pérard était la branche française de l'entreprise. Donc d'abord famille présente dans l'industrie du sucre dans le Nord, puis présente également dans le monde bancaire. Et à l'heure actuelle, le PDG d'Aliaxis, donc qui est les activités plastiques d'Eternit, la branche française, donc le PDG s'appelle Jean-Louis Pérard. Et quand on remonte dans l'arbre généalogique, donc l'ancêtre, le premier Pérard s'appelait Louis Pérard, donc il est né en 1863, mort en 1933. Ensuite, son fils s'appelait Louis-Hippolyte Pérard. Le petit-fils Louis-Maurice Pérard, et maintenant nous avons Jean-Louis Pérard. Donc on dirait que on passe le Saint Graal à une personne dans la famille, et cette personne, il y a toujours une particule en Louis. Ça, il y a eu des études sociologiques. C'est la perpétuation du prénom. Et c'est la personne à qui on va passer le flambeau. Vous voyez, donc c'est assez merveilleux. Louis Pérard, Louis-Hippolyte, Louis-Maurice, Jean-Louis. Et à chaque fois, il y a Louis, et cette personne est la personne centrale dans la famille.
Au fondateur, peut-être
là, référence au fondateur. De nouveau, le mythe fondateur de l'entreprise, et là, une particule du prénom, quoi.
Voilà, donc l'entreprise France a été fondée par un Louis, pardon, par Clovis, premier, mais qui est devenu Louis, c'est une perpétuation.
Mais cette tradition-là aussi, dans le patronat textile du nord de la France, il y a aussi cette tradition-là dans la famille, qu'on retrouve dans la famille Mulier, par exemple, dans les grandes familles Bruyvaux. Le Paulet, on retrouve ce concept. Donc c'est lié peut-être à une certaine culture.
Culture familiale.
Des maîtres des forges. Enfin, là, ce n'est pas des maîtres des forges, mais c'est cette ambiance-là.
Une culture ancestrale proche de la noblesse, même si en France, vous n'avez plus de noblesse. Mais on est dans cette optique-là, avec la réplication des prénoms.
L'aristocratie.
Alors, ils ont toujours été positionnés aux endroits où il ne fallait pas être. Le groupe Eternit, ils ont été présents dans le développement de l'Allemagne dans les années 30. Après 33.
Hein. Il fallait. Et encore,
il y avait un effort de reconstruction à faire.
De reconversion, surtout.
De reconversion, oui, de reconversion. Et après, là, donc, on n'a pas vraiment les preuves. Mais
ils ont travaillé dans ces périodes-là. Ils ont collaboré, disons-le.
Ils ont collaboré, oui, c'est clair.
Comme nos grands sidérurgistes, les Devindel et compagnie. Quoi.
Exactement. Et après la Seconde Guerre mondiale, ils ont participé à l'effort de reconstruction de l'Allemagne.
Donc dans tous les camps.
Dans tous les camps. Alors ils ont évidemment... ils étaient évidemment présents en Afrique du Sud lors de l'apartheid. Donc ils étaient...
Ils sont dans tous les bons coups.
Ils sont dans tous les bons coups. C'est relativement pénible. Dès qu'il y a un problème
ils construisent le mur,
dans la planète, ils sont présents. Quoi. Ils sont présents.
Oui, c'est des gens qui appartiennent à un certain milieu. On peut compter sur eux pour faire certaines choses.
Voilà, bons amis, compter sur eux. En Allemagne, la branche suisse, donc, qui était plus présente en Allemagne, va être même décorée pour l'effort de reconstruction de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale.
Alors tous ces sujets qui sont évoqués dans cet ouvrage dont je rappelle le titre, Eternit, un outil de destruction massive, hein, d'Alain Finet et Romina Giuliano, vous êtes enseignant, est-ce que vous êtes amené dans le cadre de votre mission d'enseignement de transmettre ça à vos étudiants?
Bien sûr. Oui, bien sûr, si vous voulez.
C'est de la sociologie, c'est
un cours qui s'appelle gouvernance d'entreprise, donc c'est l'analyse des conseils d'administration. Et là, il y a un terreau formidable pour l'analyse des conseils d'administration, parce que on voit très bien que lorsqu'il y a une personne du conseil d'administration qui part, c'est son frère qui le remplace. Donc
on voit bien les mécanismes.
On voit bien les mécanismes, et donc si vous voulez, quelque part, notre enseignement est le reflet de nos recherches.
Et la réaction des étudiants?
Ils sourient gentiment. Ils sont jeunes.
Ça veut dire...
Ils sourient gentiment, mais je pense que...
Parce qu'il y en a qui sont peut-être issus de monde que...
Ça les fait réfléchir. Dans une certaine mesure, ça les fait réfléchir. Maintenant, est-ce qu'ils ont la maturité nécessaire pour comprendre ce qu'il y a dans l'ouvrage et les méfaits sanitaires liés à l'amiante ? Ça, j'en sais rien, mais si vous voulez, moi personnellement, j'essaye de leur montrer que l'économie capitaliste peut avoir des effets pervers. Ce qu'on a voulu faire, c'est pas critiquer toutes les entreprises familiales. Parce qu'on critiquerait alors plus de 90% du tissu économique. Mais il existe des entreprises qui sont des outils de destruction massive, en l'occurrence ici donc l'entreprise Eternit. Et donc je leur explique, quand il n'y a pas de contre-pouvoir dans une entreprise, ça peut conduire à des problèmes. Vous voyez le cas Eternit qui est là. Regardez, par exemple, on va reprendre un autre cas où il n'y a pas de contre-pouvoir dans l'entreprise, c'est ArcelorMittal. Il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est la famille Mittal qui est aux commandes, aussi bien dans l'exécutif que dans les organes de surveillance. Et il n'y a pas de contre-pouvoir. À partir du moment où il n'y a pas de contre-pouvoir dans une entreprise... Et même un État ne peut rien faire parce qu'il n'est pas actionnaire.
L'exemple est tout à fait d'actualité.
Parce qu'il n'est pas actionnaire. Donc c'est le message que j'essaye de leur faire passer. C'est que, c'est bien beau l'économie capitaliste, mais qu'il peut y avoir des effets pervers.
Il faut voir
tous les tenants, tous les aboutissants, et dans quel secteur d'activité on est. Je leur fais aussi un cours d'histoire sur tout ce qui s'est passé dans la colonie belge au Congo à la fin du 19e siècle.
Qui est assez épouvantable.
On compte à 11, je pense c'est, si ma mémoire est bonne, c'est environ 10 millions de morts sous Léopold II.
Qui est devenue une des premières fortunes mondiales à cette époque.
À cette époque,
avec l'exploitation du caoutchouc et du reste.
Il y a encore des interactions actuellement entre la République démocratique du Congo, donc ex-Zaïre, ex-Congo belge, et la Belgique.
Il reste toujours le groupe... je reviens de Umicore. L'ancien Union minière du Haut-Katanga, qui s'appelle maintenant Umicore. Et donc eux, ils sont toujours présents dans ce qui est zinc.
Des enjeux de matières premières.
Des enjeux de matières premières. Mais maintenant, au Congo, c'est principalement des intérêts américains qui s'y retrouvent.
Alors on retombe dans l'échiquier international.
L'entreprise n'a pas fait faillite, contrairement à d'autres entreprises qui étaient dans le secteur de l'amiante, notamment une entreprise américaine qui s'appelle Federal Mogul, qui a fait faillite parce qu'il y avait trop de plaintes et qu'elle n'a pas pu indemniser tout le monde. Eternit n'a pas fait faillite parce que l'indemnisation passe par le fonds des maladies professionnelles où toutes les entreprises cotisent en fait dans ce fonds. Et donc là aussi on peut se poser des questions sur la manière avec laquelle l'indemnisation s'est opérée.
Et puis sur les contrôles qu'on évoquait, sur la validité des organismes, de l'indépendance entre guillemets de certains organismes qui sont chargés dans le domaine bien sûr de l'industriel, mais on peut le retrouver dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la santé en général. Il y a quelquefois des conflits d'intérêts, on va dire publiquement. Et il faut toujours, en tant que citoyen, en tant que client, toujours être très 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 vigilant.
Mais là, manifestement, au sein d'Eterni, il y a des conflits d'intérêts.
Il y a des conflits
d'intérêts. Ou du moins, pas des conflits d'intérêts, des intérêts convergents entre plusieurs familles et entre ces familles et le pouvoir politique.
Et qui font fi de l'intérêt public et de l'intérêt sanitaire et de l'intérêt de la collectivité.
Qui font fi de la maximisation du bien-être social.
Et qui profitent plutôt de la maximisation de leur profit.
Qui sont concentrés sur la maximisation de leur profit. L'entreprise est très rentable, que ce soit la branche belge ou la branche française. Ça fonctionne très très bien.
Et elle a survécu à cette catastrophe, en tout cas médiatique, de l'amiante. Hein. Il reste encore à peu près 2 minutes.
Les actionnaires, ce qu'ils ont bien, c'est du 15 ou du 16%. La rentabilité.
La rentabilité, on tourne à 7-8%.
Bon, c'est quand même des choses.
Oui, c'est confortable. À l'heure actuelle, c'est confortable.
C'est confortable. La conjoncture actuelle.
C'est confortable. Oui,
il y a dû y avoir des années un peu plus fastes quand même.
Non.
Je sais pas, non. Ah bon, non, mais depuis donc 1900 et des poussières.
Ah oui, depuis 1900, oui.
C'est un bon placement.
Ils ont dû avoir des périodes bien dorées.
Ils ont eu des périodes bien dorées.
Ils s'appellent Alain Finet et Romina Giuliano. Ils sont l'auteur de Éternite, un outil de destruction massive, et vous pouvez trouver ça aux éditions Étainpuis. Étainpuis comme le village de très chaud d'actualité.
Très chaud d'actualité, Gérard. Hein.
C'est juste à côté de chez nous.
Notre éditeur va être heureux, ça lui fait de la publicité gratuite.
Nous remercions M. Gérard Depardieu d'attirer l'attention des médias sur ce petit village.
Sur ce superbe village de Deschamps qui, il faut le préciser, se trouve à quelques kilomètres de Radio Campus.
Où il fait toujours beau, plus de 25 degrés toute l'année.
Voilà. Mais comme disait Philippe Geluc, la Belgique ne peut pas accueillir toute la richesse du monde.
En tout cas, pas que là, quoi.
Bien, et bien, Alain et Romina, grand merci d'être venus.
Merci à vous.
Dans une semaine, à peu près, il y aura une page web sur le site www.campuslille.com avec toutes les informations.
Le prochain ouvrage, ce sera sur le Mediator.
J'allais poser la question. Mmh.
Oh là là, et pour quand ?
Laissez-nous un peu de temps, là.
Non, mais dans un an, d'abord ?
On va dire 2 ans.
C'est aussi un bel exemple. Dans un autre registre.
Voilà. Avec la même approche et la même perspective sur les liens entre les familles et le pouvoir politique.
Mediator, c'est servi, c'est ça.
Mais c'est servi, le laboratoire servi.
Qui est aussi d'actualité, je crois qu'il passe.
Il y a beaucoup de choses à dire.
Encore merci et à bientôt.
À bientôt. Alain Bachung, comme un logo, tiré de son album Bleu Pétrole, paroles de Gérard Mancé. Vous écoutez Radio Campus Lille. Au revoir.
C'est un grand terrain de nulle part. Avec de belles poignées d'argent, la lunette d'un microscope et tous ces petits êtres qui courent. Car chacun va qu'à son destin. Petits ou grands, comme durant les siècles égyptiens, péniblement, à porter 1000 fois son poids sur lui. Sous la chaleur et dans le vent, dans le soleil ou dans la nuit, voyez-vous ces êtres vivants Voyez-vous ces êtres vivants Voyez-vous ces êtres vivants? Quelqu'un a inventé ce jeu. Terrible, cruel, captivant. Les maisons, les lacs, les continents, comme un ego avec des gants. La faiblesse des tout-puissants, comme un ego avec du sang. La force décuplée des perdants, comme un ego avec des dents, comme un ego avec des mains, comme un ego. voyez-vous tous ces humains? Danser ensemble à se donner la main, s'embrasser dans le noir à cheveux blonds, à ne pas voir demain comme ils seront. Car si la terre est ronde et qu'ils s'agrippent, au-delà, c'est le vide. Assis devant le restant d'une portion de frites, noir sidéral et quelques plats d'amibes, les capitales sont toutes les mêmes devenues. Aux facettes d'un même miroir, vêtus d'acier, vêtus de noir, comme un Lego mais sans mémoire, comme un Lego mais sans mémoire. Comme un Lego, mais sans mémoire. Aux facettes d'un même miroir, vêtu d'acier, vêtu de noir, comme un Lego mais sans mémoire. Comme un Lego mais sans mémoire. Comme un Lego mais sans mémoire. Pourquoi ne me réponds-tu jamais? Sous ce manguier de plus de 10 000 pages, à te balancer dans cette cage, à voir le monde de si haut, comme un damier, comme un Lego, comme un imputrescible radeau, comme un insecte mais sur le dos. Comme un insecte sur le dos, comme un insecte sur le dos. C'est un grand terrain de nulle part, avec de belles poignées d'argent. La lunette d'un microscope, on regarde, dedans. On voit de toutes petites choses qui luisent. Ce sont des gens dans des chemises, comme durant ces siècles de la longue nuit, dans le silence ou dans le bruit. Dans le silence ou dans le bruit. Dans le silence ou dans le bruit.